que le roi est très cruel, qu'il est très puissant et qu'il va donc envoyer du monde à la trousse de ces jeunes-là parce qu'il n'est pas du tout d'accord que ces jeunes n'acceptent pas ce qu'il a imposé et donc qu'ils croient en un Dieu unique. Donc, ces jeunes-là trouvent refuge dans la grotte et c'est là que le chien va jouer un rôle très important puisqu'il va bloquer l'entrée de la grotte et il va être le gardien qui va donc empêcher les autres à pénétrer à l'intérieur de la grotte. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala va donner à ces jeunes un sommeil profond qui durera 309 ans. On avait parlé du prophète Uzair et on avait vu que pour lui montrer ce que c'était la résurrection, le prophète Uzair tout seul, en solitaire, avait eu justement une période où il était endormi. Alors ces jeunes-là vont rester endormis pendant 309 ans. Et qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va les préserver pendant ces 309 ans? En fait, il y avait des endroits qui faisaient entrer, qui faisaient pénétrer les rayons du soleil à l'intérieur de la grotte. Ce qui fait que ces jeunes qui étaient dans un profond sommeil, eh bien, à cause de la chaleur qui les incommodait, qui les dérangeait, eh bien, ils changeaient, ils tournaient de côté, etc. Et à cause de ces mouvements dans leur corps, le sang continue à circuler dans leur corps et c'est comme ça qu'ils ont été préservés. Donc vous imaginez, Allah subhanahu wa ta'ala concocte un plan. Même ce monsieur, ce roi qui est très puissant, il dit qu'il pourra tout faire. En plus, vous imaginez 7 personnes. Le nombre est tellement infime que n'importe qui peut prendre 7 personnes et en faire ce qu'il veut. Vous voyez que d'un côté, ils sont en minorité. D'un côté, maintenant, ils n'ont même plus l'appui de leurs parents qui étaient idolâtres. Ils n'ont plus l'appui de tous ces nobles qui étaient parmi eux. Ils n'ont l'appui de personne. Ils sont seuls, ils sont solitaires. Mais ils ont dit non, on restera ferme à notre foi, à notre religion. Et regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala concocte un plan avec le chien, avec la grotte, avec les rayons du soleil, etc. Le sommeil de telle sorte qu'ils n'ont pas, ils vont pas communiquer, ils vont pas parler pendant tout ce temps. Et combien d'armées sont venues par là pour les chercher, sont allées pendant 9 ans, le roi n'a pas lâché et il a continué les recherches, mais les recherches n'ont jamais rien donné. Et c'est comme ça que ces jeunes-là ont été préservés. Alors, bien sûr, au bout de 309 ans, ils vont se réveiller. Et quand ils se réveillent, il va se passer exactement ce qu'on avait vu avec le prophète Uzair. Les uns les autres se demandent, ça fait combien de temps qu'on a dormi? Et chacun répond, mais ça ne fait même pas une journée qu'on dort. Donc, vous imaginez, 309 ans après, ils se réveillent. Et bien sûr, vous imaginez bien que quand ils se réveillent, ils ont faim. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, il faut qu'une personne parmi nous va chercher de la nourriture en ville. Donc, ils vont désigner une personne qui va chercher de la nourriture. Mais même là, à ce moment-là, lorsqu'on parle de la nourriture dans le Saint-Coran, on trouve un ayat, un verset du Coran qui dit que le groupe dit à la personne qui est représentée, qui doit aller chercher la nourriture, apporte ce qu'il y a de plus pur. Ce qui nous montre que si on veut préserver notre foi, ces jeunes-là, ils se rendent compte que l'impact sur notre spiritualité, l'impact que la nourriture peut avoir sur notre spiritualité. Quand on est affamé, vous êtes d'accord avec moi, et qu'on pense encore que trouve-nous la nourriture, une nourriture qui soit pure, qui soit pâte, qui soit halal, eh bien imaginez que ces gens-là, ils pensent à tous ces jeunes-là, ils ont une foi telle qu'ils demandent justement, ils précisent d'avoir de la nourriture pure. Vous imaginez? Lorsque cet homme vêtu de vêtements d'il y a 309 ans, imaginez que j'ai débarqué aujourd'hui avec des vêtements d'il y a 309 ans, avec de l'argent d'il y a 309 ans, etc. Même je pense qu'il y a une certaine transformation au niveau des êtres humains. Donc vous imaginez que partout où il passait, ce monsieur, tout le monde le regardait d'un œil bizarre, se disait, mais ce monsieur-là, on dirait qu'il vient du Moyen-Âge, etc. C'est comme si aujourd'hui on voyait quelqu'un du Moyen-Âge, quoi, presque. Et donc, il se disait, mais cet homme-là, il est en train de jouer du théâtre, qu'est-ce qui se passe avec ses vêtements vieux de 3 siècles, etc. Tout le monde le regardait, mais lui, il ne comprenait rien, puisqu'il avait l'impression d'avoir dormi moins d'une journée. Mais comme tout le monde le regardait bizarrement, mais il n'osait pas demander ce qui se passe. jusqu'à ce qu'il arrive justement au magasin pour chercher la nourriture. À ce moment-là, il choisit ce qu'il veut, il veut acheter, mais quand il s'agit de payer, la personne lui demande, alors ça fait tant, et il va donner son argent. Et en regardant l'argent, l'épicier se dit, mais ça, c'est de l'argent, c'est de l'antiquité, ça. C'est comme si vous payiez aujourd'hui en francs français, quoi. Les gens vont vous regarder, mais c'est pas possible. Et à ce moment-là, l'épicier, ça, il commence à se dire, mais il y a un problème. Et il dit, mais ça, c'est de l'argent de l'époque de l'empereur Tès. C'est de cette époque-là. Et c'est à ce moment-là que le jeune se rend compte qu'effectivement, il y a un problème, que les années se sont écoulées, puisque cet argent n'est plus en circulation. Tant qu'on le regardait comme ça, on ne se rendait pas compte. Mais là, il se rend compte que l'épicier ne veut pas lui fournir les marchandises et il lui dit, mais non, mais ça ne va pas. Mais l'épicier va l'emmener vers le nouveau roi. Et le nouveau roi, donc Théodose II, était quelqu'un qui était justement catholique. Alors, au bout des 3 siècles, les choses ont changé. Maintenant, donc, l'idolâtrie a laissé place au christianisme. Et donc, c'est quelqu'un qui est pieux, c'est quelqu'un qui est religieux, c'est quelqu'un qui est catholique. Et du coup, il a entendu parler d'un groupe de jeunes qui se sont révoltés et qui se sont réfugiés quelque part. Et à ce moment-là, il commence à se demander ce qui se passe. Et c'est comme ça qu'il va rencontrer le jeune. Et donc le roi dit au jeune, mais alors, donc ça veut dire que vous êtes ces jeunes-là et vous avez été épargnés, etc. Je voudrais rencontrer l'ensemble du groupe. Donc le roi Théodose, il décide d'accompagner ce jeune jusqu'à la grotte. Mais qu'est-ce qu'il fait le jeune, le représentant qui était venu chercher la nourriture? Il devance tout le groupe qui vient, parce qu'il y a tout un groupe qui vient avec le roi, et donc il va devancer et il va venir très rapidement retrouver ses camarades et il va lui raconter la vérité. Il va leur raconter la vérité, c'est-à-dire que, attention, nous on a l'impression qu'on a dormi une nuit, une journée, mais ce n'est pas du tout le cas, il y a eu 3 siècles depuis ce temps. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a épargnés. Et en fait, il y avait 2 versions. Il y avait donc une possibilité à ce que ces gens-là sont venus dans le but d'aider ces jeunes. Mais il y avait un autre groupe, apparemment, qui voudrait tuer ces jeunes-là. Donc, ces jeunes-là ont très peur de la réaction de tout ce groupe qui vient derrière. Et du coup, ils prient Allah subhanahu wa ta'ala de les épargner, de les aider. Ils disent, oh Allah, tu nous as aidés depuis tout ce temps-là, fais-nous dormir jusqu'au jour du Qiyamah, jusqu'au jour du jugement. Et donc ils vont rentrer de nouveau dans un profond sommeil jusqu'à ce que tout ce groupe-là va venir. Et quand ce groupe avec le roi, etc. vienne, eh bien ils se rendent compte que ces gens, eh bien ils sont de nouveau endormis. Et qu'est-ce qu'il va décider le roi Théodose II, qui était très pieux, qui était très religieux? Il décide de faire un sanctuaire. Il décide de diriger un temple en mémoire de ces jeunes qui ont gardé la foi, qui sont restés fermes dans la foi. D'ailleurs, quand certains nous demandent pourquoi est-ce que vous faites des œillets sur les tombes des imams, etc., c'est une des réponses qu'on leur fournit. On leur dit, même des simples 5 personnes simples qui étaient des gens ordinaires comme vous et moi, qui ont simplement, ces gens-là, ils ont érigé un temple sur leur tombe, c'était en fait là où étaient les corps. Hein. Pourquoi? Pour se remémorer combien ces jeunes-là étaient courageux, combien ces jeunes-là sont restés fermes à la religion. D'accord? Donc un temple a été créé. Et quels sont maintenant tous les enseignements que nous tirons de cet événement? Et pourquoi est-ce que notre saint prophète, il parlait des 7 dormants d'Éphèse aux jeunes? Tout d'abord, les jeunes dans notre communauté, eh bien c'est notre futur, vous êtes d'accord avec moi. Et donc il est très important que nous travaillions en coopération avec les jeunes. Et je vous montrerai des exemples de personnalités. Donc que Rasulallah avait choisi des jeunes personnes pour guider et pour l'aider dans sa mission. Donc c'est important de travailler avec les jeunes en coopération avec eux, etc. Alors justement, il est important de créer une sphère sociale dans laquelle les jeunes sont à l'aise, dans laquelle les jeunes peuvent se défouler, peuvent justement créer des liens entre eux, etc. Et notamment par le sport, parce que le sport fait partie de la religion, puisque le sport nous permet, en fait, la religion, elle dit qu'il faut avoir un corps sain dans un esprit sain. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc, certains sont contre les sportifs, mais je vais parler de ces sportifs-là qui ont un impact considérable sur les gens. Alors justement, notre saint prophète disait à Abou Zaré Ghifari, prends soin de 5 choses avant qu'elles ne soient retirées. Prends soin de ta santé avant que tu ne tombes malade. Prends soin de ta richesse avant que tu n'aies plus cet argent, que tu deviennes pauvre, que la pauvreté fasse suite à ta richesse. Prends soin de ton temps libre avant que ce temps libre ne t'échappe. Prends soin de la vie avant, fais des choses dans ta vie avant que la mort ne t'atteigne. Et prends soin de ta jeunesse avant que la vieillesse ne t'atteigne. Donc la jeunesse est une chose très importante. Alors, c'est important, je disais, de créer une sphère sociale de telle sorte que les jeunes, ils aient quand même une certaine limite, et ils savent quelles sont les limites qui ont été fixées et qu'ils se sentent à l'aise. Alors, notre saint prophète disait, apprenez à vos jeunes la natation, l'équitation et le tir à l'arc. C'était les sports de l'époque, vous êtes d'accord avec moi? Et si on transfère ça à notre époque actuelle, ça pourrait être le football, ça pourrait être le basketball, etc. D'accord? Et pourquoi est-ce que je vous dis qu'il est important d'avoir des personnalités comme celle-ci? Zinedine Zidane, on ne le trouve pas beaucoup dans les mosquées. C'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de fréquenter beaucoup les mosquées. Mais aujourd'hui, parce qu'il lit, parce qu'il a un nom musulman, parce qu'il lit quelques versets du Coran avant un match de football, tous les musulmans sont fous de lui. Et c'est devenu leur héros. Donc, finalement, l'impact que ça a sur les musulmans peut être très grandiose. Aujourd'hui, les parents, ils disent à leurs enfants, soyez médecin, soyez pharmacien, soyez ceci, soyez cela. Mais si on regarde, et puis surtout, ne faites pas de carrière sportive, etc. Mais si on regarde bien, peut-être que une centaine de médecins ne pourraient pas avoir l'impact que ces sportifs-là ont. Parce que justement, beaucoup de jeunes prennent référence sur Zidane, et qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent à la mosquée, ils retournent vers la religion, parce que leur fan, leur star est musulman, il lit quelques ayats du Coran, et ça y est, ça peut avoir un impact, parce que si un de nos jeunes, imaginez un petit peu, si un de nos jeunes devenait un footballeur, etc., qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va lire sa biographie, tout le monde va s'intéresser à ce qu'il fait dans la vie, et on trouvera des choses, et ça va donc ouvrir, vous voyez que ça va ouvrir les choses, ça va permettre à l'islam de se propager. Donc si on regarde bien, une centaine de médecins ne pourraient pas avoir l'impact qu'un sportif comme celui-ci pourrait avoir. Si on regarde Cristiano Ronaldo, eh bien on voit qu'il fait le signe de la croix avant le match, qu'il a une pensée pour Jésus avant le match, et quel impact ça a? Il y a des milliers de jeunes portugais qui deviennent religieux, qui retournent à la messe, qui retournent à l'église. Pourquoi? Parce que leur star pense à Jésus. Donc, ça ramène du monde vers l'église, vers la religion. Ces jeunes-là, quand ils voient leur star, justement, qui pensent qu'ils sont religieux, eh bien, ça les tente. Donc, c'est pour cela qu'il est important que, justement, on permette à notre jeunesse de se défouler, de pouvoir pratiquer les sports qu'ils aiment, etc. Et puis, donc je voudrais vous parler d'un certain nombre de jeunes que notre saint prophète avait choisis pour un certain nombre de missions, d'accord? Et alors, il y avait donc le fait qu'avant d'aller à la bataille de Hunayn, le saint prophète va choisir comme gouverneur de Mecca, comme personne qui va protéger Mecca, il va choisir une personne qui s'appelle Utab ibn Usayd. Cette personne-là avait 21 ans, était très jeune, d'accord? Et certains ont spéculé, ont dit, mais ya Rasulallah, pourquoi est-ce que vous prenez Utab qui n'a que 21 ans, il n'est pas encore bien mûr, etc. Et Rasulallah a répondu, je ne vois pas quelqu'un qui soit mieux placé, qui soit mieux que lui pour être gouverneur de Mecca. Ensuite, vous avez le cas de Mouaz ibn Jabal qui avait 29 ans et que le saint prophète va désigner pour le représenter au Yémen. Donc il va l'envoyer en tant que missionnaire au Yémen. Et quand il va l'envoyer, il lui dit que il lui donne deux missions. Il lui dit donc qu'il doit propager la religion et il doit collecter. Il doit récupérer la zakat. Et à ce moment-là, il lui dit, mais quand les gens, quand tu vas venir, ils vont te poser des questions. Et comment est-ce que tu vas leur répondre? À ce moment-là, il dit, je vais m'appuyer sur le Saint-Coran. Et il dit, mais si les réponses, si les choses qu'ils te demandent, il n'y a pas les réponses dans le Saint-Coran, à ce moment-là, comment est-ce que tu vas faire? Et il dit, je vais me baser sur votre sunna, sur ce que vous faisiez. Et à ce moment-là, le Soleil lui dit, oui, mais si c'est des questions qui ne sont pas non plus dans ma sunna, qu'est-ce que tu vas faire? Il a dit, je vais utiliser l'ijtihad, je vais me baser sur le Saint-Coran et sur votre sunna pour trouver quelle est maintenant l'attitude à adopter. Exactement, c'est lui qui va poser la base du ijtihad, exactement ce que l'on fait lorsque l'on suit le mujtahid. Puisque le mujtahid, il se base sur le Coran, il se base sur les hadiths, et ensuite, les questions actuelles, comme par exemple l'avortement, comme par exemple l'euthanasie que nous avions traitée, etc. Toutes les questions que les mouminines, que les croyants pourraient poser et qui affectent la vie actuelle et qui ne se trouvent ni, qu'on n'arrive pas à trouver exactement dans les termes, dans le Coran, ni dans les traditions, dans les hadiths, qu'est-ce qu'ils font les mujtahides? Ils font des recherches et par rapport à l'analyse du Saint-Coran, des hadiths, etc., ils vont faire leur propre fatwa. Eh bien, c'est ce jeune de 29 ans qui a posé la base de l'ijtihad. Donc, ça nous montre que le Saint-Prophète s'appuyait sur ces jeunes-là. Il avait choisi des jeunes qui étaient compétents pour certains domaines. Vous vous souvenez de Ja'far bin Abu Talib, le frère d'Imam Ali alayhi salam, qui était parti lors de l'émigration en Abyssinie. Donc, c'est lui qui était dans les 20 ans, qui était dans sa vingtaine, et il est allé comme représentant des musulmans en Afrique. Donc, vous voyez que là aussi, il s'agit d'un jeune. Vous vous souvenez de Oussama bin Zayd, qui avait 18 ans et que Rasulallah avait nommé comme commandant de l'armée. Et vous vous souvenez de tous les problèmes qui ont eu lieu, toutes les personnes qui ont rouspété, qui ont décidé de ne pas partir dans la guerre parce que c'était Oussama, un jeune de 18 ans, qui était nommé en tant que commandant en chef. Vous avez notamment Abu Ayyub Ansari qui avait assisté à toutes les batailles durant l'époque du prophète, mais qui a refusé d'être derrière Oussama et donc qui n'a pas suivi les ordres du prophète qui avait demandé à ce qu'on parte pour cette guerre-là. Et puis vous vous souvenez qu'Akhaybar, Imam Ali alayhi salam qui avait 30 ans à cette époque-là, le saint prophète va lui remettre l'étendard. D'accord? Et vous vous souvenez que Imam Ali alayhi salam, à un moment donné, quand les juifs ont rompu son bouclier, quand il n'a plus de bouclier, il va se servir de la porte du fort comme bouclier. Et une fois qu'il avait utilisé la porte du fort, quand il va la redéposer à la fin de la bataille, 10 personnes ont essayé de porter la porte et n'ont pas réussi à porter la porte de ce fort-là que Imam Ali avait utilisé. Donc vous voyez que notre saint prophète comptait sur les jeunes de sa communauté et qu'il travaillait avec les jeunes, pour les jeunes, etc. Mes chers soeurs, je voudrais vous parler aujourd'hui du shahadat de Bibi Sakina alayha salam et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il fasse en sorte que la paix revienne en Syrie et qu'on puisse retourner au mausolée de Bibi Sakina alayha salam. Comme vous le savez,